Bonjour à tous. Dans 7 jours dans le monde, on revient, vous le savez, chaque semaine sur l'actu internationale. Et tout va très très vite. C'est pour ça que j'ai voulu que de temps en temps, on s'arrête sur un dossier particulier. Alors qu'est-ce qu'on observe ? À quoi on assiste ? Peut-être à un nouvel ordre mondial où les États-Unis ou l'Union européenne n'ont plus le monopole de la puissance. Tiens, prenons par exemple un exemple. Après la bataille d'Alep, on a vu comment les Américains, quelque part, ont laissé leur place à d'autres intervenants, Turquie, Russie, Iran, pour tenter de trouver une solution en Syrie. On voit également les Russes, qui depuis quelques années, quelques mois maintenant, font leurs emplettes au Donbass, en Crimée. On voit la Chine qui grossit économiquement, militairement. Alors est-ce la fin de l'hyperpuissance américaine ? Est-ce qu'il y a une nouvelle distribution de la puissance dans le monde ? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Professeur de géopolitique à Paris Business School, à Sciences Po Paris. C'est l'organisateur chaque année, fin mai, des rencontres géopolitiques de Trouville, dans le département du Calvados. Antoine Bondas, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Quel plaisir, Antoine Bondas, nouvelle recrue de 7 jours dans le monde, Antoine Bondas, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Oui, alors, Trump essaye probablement de faire oublier les années Obama, bombardement de la Syrie. Il essaie de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais les États-Unis sont-ils toujours aussi puissants que ça ? Tiens, on parle d'hyperpuissance, Frédéric Ancel. D'où vient le terme ? J'ai l'impression que c'est Hubert Védrine, de mémoire, qui l'avait lancé à la fin des années 90, au moment où les États-Unis, finalement, quelque part, régnaient sans partage sur le monde, après la chute de l'URSS. Hein.
Absolument, c'est un terme védrinien, qui d'ailleurs était très stimulant à l'époque sur le plan intellectuel, mais un terme dont je me méfie un petit peu. D'abord parce que l'hyperpuissance américaine, en réalité, c'est surtout 1945. S'il y a un moment dans l'histoire, d'accord, et dans l'histoire des nations d'ailleurs, où une nation a surdominé sur tous les plans, 50% du PIB mondial, l'arme absolue, l'arme atomique, alors que les soviétiques ne l'auront qu'en 49, comme on le sait, avec un réseau d'alliances tout à fait important et face à des puissances soit affaiblies, soit en ruine, eh bien c'est évidemment 45, beaucoup plus que dans les années 80 ou 90. C'est le premier point. Deuxième point, l'hyperpuissance, est-ce que ça signifie l'hypercapacité ou l'hypervolonté ? Ah. Parce que vous avez, si vous voulez, deux choses. Lorsque vous êtes puissant, la puissance, c'est quoi ? C'est faire, faire, empêcher de faire et renoncer à faire. Bon, c'est très aronien hein, comme définition, mais je crois que c'est un peu ce que Reverdy disait de l'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il n'y a pas d'hyperpuissance avec des preuves d'hyperpuissance. Alors, à la fin des années 80-90, c'est vrai que l'URSS n'existe plus, c'est vrai que l'OTAN avance considérablement en Europe orientale, mais est-ce pour cela que les Américains vont pouvoir, d'une part, et vouloir, d'autre part, assumer, en quelque sorte, cette hyperpuissance ? Eh bien, la réponse est non, à deux titres, et je vous donne simplement deux exemples. On a bien vu que en 2003, la guerre en Irak a globalement été un échec, et en tout cas, la volonté qui fut celle à l'époque de Bush fils, et avant lui, de Clinton, tiens, sur le dossier israélo-palestinien, de régler les choses, bah, ça n'a pas
abouti. Ou l'ex-Yougoslavie aussi.
L'ex-Yougoslavie. Alors là, il a fallu appeler les Américains parce que les Européens n'en pouvaient même, mais en réalité, les Américains n'ont pas définitivement mis fin à toute possibilité de renouvellement de la guerre dans cette région. Donc, vous voyez, pareil avec la Corée du Nord. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec la Corée du Nord est tout à fait emblématique de ça. Les États-Unis, de loin, et je résume ma pensée, restent la première puissance mondiale. C'est vrai sur le plan militaire, de loin, loin devant la Chine. Sur le plan de la valorisation du savoir et du high-tech, sur d'autres plans aussi, sur le plan diplomatique avec le premier réseau.
L'économie, un tout petit peu aussi.
L'économie et la finance, carrément un tout petit peu. Et je pense que ça demeurera. Mais en part relative, il y a eu, oui, un affaiblissement, pas des États-Unis, mais par rapport à d'autres puissances qui commençaient enfin à émerger. On pense bien évidemment à la Chine, éventuellement au Brésil,
bon,
à l'Inde.
Alors, on est ensemble pendant une quarantaine de minutes, justement, pour se demander si, en effet, c'est la fin de l'hyperpuissance qui peut prendre le relais. Antoine Bondas, c'est quoi les composantes d'une hyperpuissance ? Parce que quand on écoute Frédéric Ancel, en effet, il y a du militaire, il y a de l'économie, il y a ce qu'on appelle le soft power, Il y a de la diplomatie, probablement. C'est vrai que c'est voilà, les États-Unis, un membre de conseil de sécurité permanent, un siège permanent, un réseau d'ambassades énorme. C'est quoi, donc, ça se caractérise par quoi?
C'est la grande question qui anime en réalité les théoriciens réalistes des relations internationales avec cette notion clé de la puissance, qui est censée être au cœur des relations entre États. La puissance se définit de plusieurs façons et historiquement, on a cherché un seul indicateur. Ça pouvait être le PIB, ça pouvait être la consommation d'électricité, ça pouvait être les forces navales, etc. Depuis les années 60-70 et notamment les travaux à la fin des années 40 de Morgenthau, on a essayé de mettre en avant plusieurs facteurs, donc des indices multifactoriels de puissance, qui sont des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatif, la solidité d'un régime politique, la morale ou en tout cas le patriotisme de pays, etc. Dès les années 70, vous avez l'ancien sous-directeur de la CIA, Ray Klein, qui va définir ce qu'on va appeler les équations de la puissance. Donc il va essayer de façon extrêmement scientifique de définir ce qu'est la puissance. Aujourd'hui, on peut considérer que la puissance se définit en termes militaires, économiques, technologiques, puis ensuite le soft power qu'on qualifie trop souvent uniquement de puissance culturelle. C'est
non, pas
bien
ça.
Plus loin.
Bien sûr.
Il faut aller bien, bien plus loin.
Les arts, l'éducation,
exactement.
L'immatériel, les médias, outils d'influence aussi,
exactement.
Outils d'influence économique aussi, bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pays qui a essayé de définir aujourd'hui ce qu'est la puissance de façon extrêmement rationnelle, et c'est la Chine.
Ah, oui.
À la fin des années 80, la Chine met en avant ce qu'elle présente comme la puissance nationale complète. Donc Zhongre Guoli en chinois, et on va chercher là une vingtaine d'indicateurs de puissance afin d'établir une hiérarchie.
Assumé. Ça c'est assumé.
C'est
voilà,
assumé
c'est
puisque
but.
C'est Deng Xiaoping qui conseille lui-même ses conseillers en leur disant il faut analyser la puissance d'une façon complète. Donc il y a bien évidemment des désaccords entre les puissances, entre les universitaires sur comment est-ce qu'on définit une puissance. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Ancel. Les États-Unis aujourd'hui restent bien évidemment la première puissance mondiale. Donc on a sur le plan de la distribution de la puissance un système qui demeure unipolaire, mais avec une multipolarisation. Donc on a d'un côté une distribution et d'un autre côté une dynamique qui va vers un partage et une diffusion, en tout cas, de la puissance.
Et on va voir justement à qui ces cartes sont redistribuées. Justement, juste Frédéric Ancel, on reste encore un petit peu sur les États-Unis. On va arriver sur Trump dans un instant, bien entendu, parce que là aussi, les cartes sont redistribuées, la politique américaine. Cette hyperpuissance américaine, ces 20 dernières années, elle s'est caractérisée par quoi, justement? Vous le rappeliez, l'ex-Yougoslavie, par exemple, l'intervention des Américains. Ensuite, faire la paix dans le monde, installer la démocratie en Irak. En Afghanistan aussi, le 11 septembre aussi, qui fut peut-être une occasion toute trouvée aussi pour George W. Bush. Ça coûte cher ou pas d'être une hyperpuissance?
Alors je vais vous répondre en creux. D'abord ça coûte très cher, parce qu'il faut que vous mainteniez votre budget militaire sur des niveaux qui dépassent bien évidemment ceux de vos rivaux ou de vos concurrents plus ou moins directs. Ça c'est une certitude. Il faut que votre instrument militaire puisse être utilisé et de manière extrêmement diverse, à peu près n'importe où, n'importe quand, très rapidement et très efficacement. La doctrine américaine depuis 45, c'est pouvoir maintenir un niveau de guerre, une guerre de haute intensité dans deux endroits simultané, réaliser deux guerres importantes. Bon, alors évidemment, heureusement, ça s'est jamais produit, mais ça existe toujours. Donc ça coûte évidemment extrêmement cher. Alors parfois, on délègue. On aime dire, regardez à quel point le candidat Trump a dit aux Occidentaux et aux Européens, notamment dans le cadre de l'OTAN, écoutez, vous coûtez vraiment trop cher, on va se répartir un petit peu la charge. C'est-à-dire, c'est perçu quand même aussi comme un fardeau et comme une charge, y compris d'ailleurs au sein de l'opinion publique américaine. Donc oui, la puissance, ça coûte cher. Mais je vous réponds en creux sur le critère de ces 20-30 dernières années. On ne peut rien faire de sérieux sans l'aval des États-Unis dans le monde. Vous ne pouvez pas bâtir, par exemple, une coalition internationale, et en réalité même pas régionale, de type militaire sur un théâtre d'opération quel qu'il soit, si vous n'avez pas l'aval, allez, au pire l'indifférence des États-Unis. Les États-Unis en tant que grande puissance ne sont pas indifférents par définition parce qu'ils assument leur rôle de puissance, mais ça ne signifie pas qu'en plein les États-Unis aient réussi à faire ce qu'ils avaient entrepris. Encore une fois, le dossier israélo-palestinien, il reste pour l'instant en suspens, en dépit des efforts herculéens réalisés par, consentis par Clinton, à l'époque où, en principe, les États-Unis étaient donc l'hyperpuissance. Alors que, on se dit que quand même, ça aurait pu être un dossier que seuls, d'ailleurs, les Américains auraient pu
régler facilement. Enfin, facilement, en tout cas rapidement, voilà.
Dans l'Afrique des Grands Lacs, je ne reviendrai pas à l'exemple du Rwanda en 94, où là aussi les États-Unis étaient l'hyperpuissance, eh bien, ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas voulu jouer. Dernier exemple extrêmement rapide et très récent français, le Mali. Seule la France a voulu et a pu intervenir aussi rapidement en quelques heures pour empêcher que pour la première fois une capitale tombe entre les mains des djihadistes. Les Américains n'ont pas voulu intervenir directement, mais en réalité, ils ne le pouvaient pas. Ça me paraît stupéfiant à vos auditeurs et téléspectateurs, mais c'est le cas. Donc sur certains théâtres d'opération dans le monde, cette hyperpuissance, encore une fois, elle ne peut pas ou elle ne veut pas se déployer.
Antoine Bondage.
Et c'est ce que Joseph Nye, un ancien de Harvard, appelle le paradoxe de la puissance. Les États-Unis sont la nation la plus puissante, mais seuls, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels ils ne peuvent pas régler le problème. Sur le concept d'hyperpuissance, il faut vraiment se remettre dans le contexte des années 90. La fin de la guerre froide, la chute de l'URSS. On avait deux superpuissances, une superpuissance disparaît, et donc on n'en a plus qu'une, les États-Unis, et qui vont désormais être qualifiés par Hubert Védrine dès 98 d'hyperpuissance. Dès les années 90 et dès l'année 90, Charles Krautheimer, donc un conservateur américain, un éditorialiste, parle du moment unipolaire. Vous avez désormais dans le monde une seule très grande puissance. Et ce sentiment de puissance américaine va être renforcé au tournant des années 2000 et au début des années 2000 dans la littérature académique américaine, on ne parle que de l'unipolarité, on parle d'un empire américain et tous les universitaires américains s'accordent pour dire, et je cite par exemple John Eikenberry de Princeton qui disait « Les États-Unis sont une superpuissance globale sans rival et sans précédent, car à aucune autre période de l'histoire moderne, un seul État n'a été aussi puissant par rapport au reste du monde. » Donc le début des années 2000 s'inscrit vraiment dans cette superpuissance américaine,
alors,
ce qui va être complètement bouleversé
voilà.
À partir de 2008.
La crise.
Non pas par l'élection
d'Obama.
Du président Obama,
non.
Mais par la crise financière et économique, qui va donner un coup très fort à la superpuissance américaine et surtout un coup sur les perceptions internationales. Et là, je pense qu'il faut vraiment insister sur les perceptions internationales de cet ordre mondial. Les Américains sont souvent victimes un peu de vagues de déclinisme. Samuel Huntington, à la fin des années 80, mettait cela en avant. Il considérait qu'il y avait une première vague à la fin des années 50 avec Sputnik et le rapport Gaither, à la fin des années 60 avec les tensions sur les dollars et le choc pétrolier, à la fin des années 70 avec la défaite au Vietnam et l'expansion soviétique en Afrique et en Amérique latine, à la fin des années 80 avec l'émergence du Japon. Alors plus personne n'en parle aujourd'hui, mais il y avait un livre extrêmement connu à la fin des années 70 même qui s'appelait Japan Number One, avec l'idée que le Japon peut-être allait racheter New York, Manhattan et aller devenir la première puissance économique mondiale. Et à la fin des années 2000, à cause de la crise financière et économique, on revient et on a de nouveau un cycle de déclinisme, même si, il faut bien le souligner, c'était un cycle un peu médiatique, mais que les dirigeants politiques américains, eux, s'inscrivaient en faux. Et il faut rappeler par exemple le discours sur l'état de l'Union du président Obama en 2011, quand il dit aucune superpuissance ne rivalise avec nous. Donc nous sommes et nous restons le concept des années 90 de Madeleine Albright, la puissance indispensable dans le monde.
D'accord ou pas avec ce déclinisme né de la crise, Frédéric Ancel ?
Alors, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur les perceptions. Vous savez que mon maître, c'est Yves Lacoste, le fondateur de l'outil des représentations. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. On prête aux États-Unis de Barack Obama pendant 8 ans le pouvoir dont il dispose en principe, c'est-à-dire d'intervenir ici et là et de faire respecter, tiens donc, ses propres lignes rouges, notamment sur la Syrie en 2012 puis 2013.
Ouais, non.
Il ne respecte pas sa propre ligne rouge alors qu'il avait bien évidemment les moyens politiques et militaires. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas un seul chasseur-bombardier russe stationné en Syrie. Et il ne le fait pas. Le résultat, mais je parle sous le contrôle d'Antoine, l'Asie, et notamment l'Asie du Sud-Est alliée des États-Unis, commence à craindre un affaiblissement de la volonté du grand copain dans la cour de récréation, du protecteur, et on en a extrêmement peur. Le président philippin, d'ailleurs, se rapproche sensiblement de la Chine. Les Vietnamiens se montrent extrêmement frileux et déçus. Les Sud-Coréens parlent de remonter en puissance sur le plan militaire. Et les Japonais parle, et notamment Shinzo Abe, de le premier ministre nationaliste, de biffer le fameux article 9, on y reviendra, de la constitution
japonaise qui empêche
le déploiement de l'armée hors de l'archipel et de faire du nucléaire. Donc on a bien là une semi-hyperpuissance qui, à un certain moment, ne s'assume pas comme telle dans un dossier qui, en principe, n'était d'ailleurs pas le plus compliqué ni le plus dangereux. Et du coup, vous allez avoir un risque de représentation divergente, une forme de discrédit de la part de vos alliés, et ça, c'est extrêmement dangereux.
Mais Obama, en tant que tel, il a, bien sûr, il y a eu la crise, hein, vous le disiez, Antoine Bondaz, Frédéric Ancel, mais est-ce qu'il a affaibli les États-Unis sur la scène internationale, quelque part, finalement, en ne respectant pas sa parole, en n'intervenant pas, par exemple, en août 2013. Antoine Bondaz.
Sur le plan capacitaire, il n'y a pas de déclin absolu des États-Unis. Il peut y avoir un déclin relatif du fait de l'émergence, de la montée en puissance de la Chine, de l'Inde ou de la remilitarisation de la Russie. Sur le plan moral, et c'est ça la vraie question en réalité pour les États-Unis, Barack Obama, oui, a fait une faute politique. C'est-à-dire d'indiquer une ligne rouge, mais de ne pas la respecter. Ce qui a pour conséquence, et comme le professeur Ancel le disait très bien, une remise en cause par les alliés des États-Unis des garanties de sécurité américaines. Et des questions qui se posent sur, nous, en cas de conflit demain avec la Chine, avec la Russie ou avec d'autres, est-ce que les États-Unis sont présents ?
Ils sont là,
Je pense qu'il faut quand même recontextualiser 2013 et la non-intervention américaine. À l'époque, le président Obama s'était fait notamment élire en 2008 sur un désengagement d'Afghanistan et d'Irak. Il y avait la volonté de ne pas se réengager dans un conflit au Moyen-Orient. Et fin 2011, début 2012, et dans la campagne de l'élection de 2012, Barack Obama met cela en avant. Le pivot vers l'Asie-Pacifique n'était pas tant un renforcement absolu des capacités américaines dans la région, mais que de façon relative, un désengagement, en tout cas militaire, du Moyen-Orient, et en tout cas des théâtres d'opération. Et donc, Barack Obama, à l'époque, n'avait aucune envie de se réengager en Syrie. Par contre, il a bien évidemment eu une faute politique et morale qui a fragilisé le système d'alliance américain.
Oui, alors en même temps, sur Barack Obama, quand même, bon, il y a cette faute, très bien, mais quand même, l'hyperpuissance américaine, il a cherché quelque part à la renforcer. Je pense notamment puissance économique, l'indépendance énergétique, les pétroles de schiste, qui ont émergé principalement sous Barack Obama, joue aussi sur le commerce, lancer ces grands traités de libre-échange transpacifique, transatlantique également. On ne peut pas tout reprocher à Barack Obama.
Non, et notamment pas un déclinisme d'ailleurs. Je pense qu'il était davantage conscient qu'il valait mieux se maintenir à un niveau de puissance très important en coopération, en quelque sorte, avec des puissances émergentes, et notamment avec la Chine et d'autres, plutôt que d'y aller frontalement. Cela dit, bémol à ce bémol, jamais son prédécesseur n'avait autant utilisé une nouvelle arme que sont les drones. Et Barack Obama a envoyé dans un monde meilleur un peu prématurément un certain nombre de terroristes de type
du Yémen, du Pakistan,
beaucoup de pays, y compris des pays alliés qui ont cessé de protester.
Le Pakistan
protestait en permanence. Bon, donc il ne voulait pas y aller au sol effectivement, et en même temps rattrapé par la patrouille des événements, il a été obligé à un certain moment de renvoyer malgré tout des hommes à la fois d'ailleurs en Afghanistan et en Irak, même si ce sont surtout des conseillers et des forces spéciales. Oui, mais enfin néanmoins vous avez quand même des Américains malgré tout au sol, et puis encore une fois l'usage des drones. Et dernier point, je pense qu'il ne faudrait pas effectivement considérer que Obama, un peu à la manière d'un Kissinger dans les années 70, disant il nous faut accompagner le déclin, même si c'était provisoire dans son esprit, je ne pense pas qu'Obama ait une vision d'un déclin des États-Unis. Encore une fois, il a, me semble-t-il, interprété l'hyperpuissance américaine dans un cadre ou dans une dimension plus coopérative et multilatérale qu'unilatérale et frontale, mais ça ne signifie pas qu'il s'agit d'un déclin.
Antoine Bondaz.
Et Barack Obama était tout sauf un décliniste. La politique du pivot vers l'Asie, c'est justement une politique extrêmement réaliste, extrêmement pragmatique de dire le cœur de l'économie mondiale est désormais en Asie. Les tensions internationales, s'il y a un risque de guerre, et le risque majeur aujourd'hui, est en Asie. Il faut donc que les États-Unis soient présents, renforcent leur présence, notamment en Asie du Sud-Est, puisque George Bush Jr., au début des années 2000, avait été vraiment un grand absent de l'Asie du Sud-Est. Donc sa volonté, c'était de montrer que les États-Unis sont de retour, c'était une phrase qu'avait sortie la secrétaire d'État Clinton, et surtout de réengager l'Asie, renforcer le réseau d'alliances avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Australie, avec les Philippines, avec la Thaïlande, et surtout sur le plan économique et vous l'avez très bien dit, sur le plan également commercial, que les États-Unis restent présents, que la Chine ne soit pas la seule grande puissance commerciale et économique de la région.
Et sur le plan énergétique aussi, hein, où depuis, hein, on voyait donc, eh bien, c'était début mai, les États-Unis qui commencent maintenant à exporter donc leur pétrole de schiste sur des tankers à destination de Singapour, par exemple.
C'est ça. Alors, on a fait de M. Obama, sans mauvais jeu de mots, quelqu'un de très vert au sens écologique du terme. Et effectivement, il a mis son veto à ce fameux pipe qui devait, c'est pas exactement d'ailleurs un pipe, mais cette voie d'exportation depuis Canada. L'Alberta au Canada, ça, jusqu'au golfe du Mexique pour des raisons écologiques. Et il tenait vraiment à cette dimension écologique. Et en même temps, effectivement, on a une révolution, ou une nouvelle révolution en quelque sorte, parce que sa nature n'est pas nouvelle, à savoir que les Américains sont redevenus sous Obama, et non pas sous Trump, sous Obama, la première puissance exportatrice d'hydrocarbures au monde, à commencer par les différents schistes, ce qui d'ailleurs aujourd'hui pourrait expliquer en partie la politique, ça nous entraînerait ailleurs, mais saoudienne dans la région et la politique d'autres pays en termes de pétrolier.
Son successeur quand même, on a deux sentiments vis-à-vis de Trump, et on en parle toutes les semaines dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. On a d'un côté une ligne diplomatique un petit peu flou quelque part, alors parce que à sa façon il ne remet pas en cause l'hyperpuissance des États-Unis. Puis de l'autre côté on voit ses interventions en Syrie, ses coups de gueule contre la Corée du Nord, ses menaces également, avec cette question: est-ce que l'Amérique est de retour? Alors Antoine Bondaz,
il y a eu la volonté de Trump en termes de communication politique de surjouer le déclin, se présenter comme le président du Make America Great Again, que Obama aurait affaibli les États-Unis, c'est faux.
C'était sur un de ses arguments de campagne et pour lequel on a voté pour lui.
Mais sur le plan purement économique, Barack Obama a un bilan extrêmement positif. Alors on peut le discuter sur la question des inégalités et à qui a bénéficié le développement économique américain. Mais en termes de taux de chômage, de balance commerciale, etc., Barack Obama a été un très bon président. Et son idée était de dire une Amérique puissante est une Amérique dont l'économie et puissante. Trump, en réalité, est sur la même ligne, exactement la même ligne. Ce qu'il explique, c'est que du moment où l'Amérique sera puissante sur le plan intérieur, alors elle pourra projeter, d'une certaine façon, sa puissance à l'étranger. Et les interventions en Syrie, l'utilisation de la mother of all bombs en Afghanistan et les menaces sur la Corée du Nord, c'est avant tout de la communication. D'accord. C'est-à-dire surjouer le retour des États-Unis, alors que les États-Unis n'ont jamais quitté le Moyen-Orient, n'ont jamais quitté l'Asie du Nord-Est et n'ont jamais quitté, par exemple...
Et n'ont pas réduit leur budget militaire.
Alors, l'ont réduit quelque peu pour des raisons budgétaires.
Mais pas récemment, oui.
Pas récemment, voilà. On est à peu près maintenant à 600 milliards de dollars, ce qui représente, il faut bien le rappeler,
4 fois plus que la Chine, officiellement.
C'est ça, et surtout 40% des dépenses militaires mondiales.
Ouais. Tout juste, Frédéric Ancel, les États-Unis, hyperpuissance toujours, sous Trump?
Trump, de toute façon, à lui tout seul, ne pourra pas modifier les tendances lourdes. Oui, bien sûr, les États-Unis restent une très très grande puissance, ou une hyperpuissance, si vous voulez, avec les limites qu'on a vues tout à l'heure. Avec tout de même quelques interrogations sur le personnage. Est-il dans une posture du fou au faible? Dans les années 70, avec Nixon, il y a eu des fuites selon lesquelles, au fond, Nixon voulait apparaître comme quelqu'un qui était capable de faire tout et n'importe quoi, y compris de balancer la bombe atomique sur le Nord-Vietnam, voire sur la Chine. Il s'agissait de sidérer, en quelque sorte, les adversaires. On se demande dans quelle mesure un Trump n'est pas en train de jouer ça. On se demande également dans quelle mesure il voulait, et c'est beaucoup plus grave comme question, réellement assumer la présidence des États-Unis, parce que sur un certain nombre de dossiers, manifestement, il n'y a pas eu de travail en amont. Il ne s'agit pas de se moquer du personnage de son inculture en matière d'affaires étrangères au regard d'un Obama qui, lui, se passionnait par ces questions et était très, très 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 au fait de ça. Mais enfin, quand même, l'imprévisibilité de Trump aujourd'hui suscite un certain nombre d'interrogations.
Bon, on continue 7 jours dans le monde dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio. Quelles sont les nouvelles puissances Est-ce qu'il y a une redistribution de la puissance dans le monde? On va continuer avec Frédéric Ancel de Paris Business School, avec Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Frédéric Ancel, co-auteur de la géopolitique de la nation France, Frédéric Ancel qui organise chaque fin du mois de mai, donc à Trouville, les rencontres de géopolitique. Avec nous, Antoine Bondas, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Oui, est-ce la fin de l'hyperpuissance américaine? J'ai voulu, pour ce numéro de 7 jours dans le monde, avec qu'on appuie un peu sur le bouton pause, justement, parce que tout va tellement vite. Est-ce qu'il y a une redistribution de la puissance dans le monde, justement? Tiens, aujourd'hui, quel pays faire rentrer dans cette catégorie donc des hyperpuissants? Antoine Bondas, vous avez une petite idée?
Aujourd'hui, s'il y a des hyperpuissances, il n'y en a qu'une, ce sont les États-Unis. Après, il faut voir, je pense, par...
Pardon, on parlait tout à l'heure, on s'interrogeait, est-ce qu'il y a un recul ou pas des États-Unis? Vous nous avez dit tout à l'heure, non, les États-Unis restent une hyperpuissance. Alors après, voir après si à côté ne vont pas se déterminer d'autres puissances, mais est-ce que ça s'accompagne quand même quelque part? Est-ce qu'on n'assiste pas quand même à un recul de l'Occident, un recul des Nations Unies aussi? On voit à coup de veto, c'est bloqué en permanence. Est-ce que tout ça, ça va de pair?
Alors, je ne pense pas que ce qui se passe aux Nations Unies ait un rapport direct avec la redistribution de la puissance sur la scène internationale.
Je posais la question.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un affaiblissement relatif des États-Unis et peut-être un affaiblissement absolu de l'Europe. En tout cas, sur le plan militaire, les dépenses aujourd'hui de l'Europe sont bien moindres que ce qu'elles étaient il y a une vingtaine d'années. Cette grande question de la redistribution commence encore une fois avec la crise économique et financière. L'année 2008 est marquée par de nombreux rapports. Vous avez un livre de Farid Zakaria, qui est un universitaire américain, un des présentateurs aujourd'hui vedettes de CNN, qui parle du monde post-américain et de l'ordre post-américain. Vous avez un rapport de la CIA, on parle beaucoup du dernier rapport, celui sur 2035.
Oui, et vous avez à l'époque, on parle beaucoup Bruno Vertrais d'ailleurs.
Ouais. Et vous avez à l'époque le rapport sur 2025, où on parle déjà d'une redistribution des cartes de la puissance. Donc, il y a, à partir de la fin des années 2000, une prise de conscience que, effectivement, la Chine, en premier lieu, mais aussi l'Inde, la Russie, le Brésil, c'est de l'époque où on parle énormément des BRICS, sont en train d'être des puissances de premier plan. Est-ce que cela veut dire qu'elles peuvent concurrencer directement les États-Unis sur tous les secteurs de la puissance? Non. Les États-Unis demeurent la seule superpuissance dans le sens où ils ont une primauté dans quasiment tous les facteurs de puissance. La Chine, sur le plan économique, peut-être concurrencer les États-Unis. Mais sur le plan, par exemple, militaire, la Chine est encore loin derrière. Sur le plan technologique, le professeur Ancel en parlait précédemment, la Chine est encore loin derrière. Donc, il y a une redistribution, mais les États-Unis demeurent, encore une fois, la seule superpuissance.
Frédéric Ancel, c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière à l'occasion du lancement du deuxième porte-avions chinois. On se rend compte quand même que les États-Unis en ont quand même 10. Ils ont 600 bases dans le monde quand la Chine n'en a qu'une, à Djibouti. Voilà, quelque part. Mais on voit la Chine, sous la direction de Xi Jinping, qui essaie de prendre le relais, qui essaie de combler son retard.
Non seulement de combler son retard, mais dans les représentations profondes chinoises, la Chine doit redevenir, je dis bien redevenir ce qu'elle a été pendant longtemps, c'est-à-dire la première puissance du monde. Alors nous, on les voit comme des émergents.
Oui, des arrivants.
Ce n'est pas du tout leur cas. Alors, je voudrais faire intervenir le concept de grande puissance riche et grande puissance pauvre. Les États-Unis sont une grande puissance riche, hyperpuissance qu'on a très bien décrit jusqu'à présent. Vous avez demain, sans doute, c'est pas certain, mais sans doute, une nouvelle grande puissance ou moyenne grande puissance riche. Donc là, la tendance lourde, elle est assez claire, c'est la Chine. Et puis c'est tout. Parce que le concept des BRICS, auquel je n'ai jamais cru, comme vous le savez, Fabrice, qui s'appuyait pour l'essentiel sur un critère, il était très monocritère, qui était la croissance. Ouais. Bah aujourd'hui, la croissance du Brésil est en berne, est en récession. La croissance indienne s'est largement effritée, c'est le moins qu'on puisse dire. La croissance de la Russie est plombée par un baril de brut à 40 ou 50 dollars. Donc, si vous voulez, il reste au fond la Chine, et encore la Chine qui en a rabattu, parce qu'on est passé en termes de croissance, en gros, de 11-12 à 6-7, et encore. Donc, on est là sur quelque chose qui, me semble-t-il, est un intéressant. Il y a, et ne l'oublions pas, ne les négligeons pas, en Europe encore deux grandes puissances pauvres, la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi grande puissance? Parce que sur un continent, sur la quasi-totalité d'un continent entier, à savoir l'Afrique, et sur quelques autres zones comme le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, ce sont deux puissances qui non seulement ont pu, mais qui ont voulu intervenir, et intervenir de manière extrêmement forte, efficace, efficiente, et qui sont encore capables de créer autour d'elles des coalitions.
On y reviendra justement sur la France, est-ce qu'elle est encore une grande puissance? Simplement toujours sur la Chine. Hein. Les accords commerciaux, on a vu comment Trump a cassé donc le traité transpacifique, finalement, quelque part, en laissant les cartes aux Chinois, libres à eux, comme ça, de nouer des alliances dans la région. On voit les implantations chinoises en mer de Chine, vous savez, sur ces petits îlots, ces petites îles, etc. L'accroissement des budgets militaires, malgré tout, même s'ils sont toujours en deçà. L'Amérique
elle peut laisser comme ça la Chine grandir en influence, Antoine Bondaz?
Ça, c'est la grande question. Et dans les relations internationales, on parle actuellement du piège de Thucydide. Alors, Thucydide, ce grand historien grec qui parlait de la guerre entre Sparte et Athènes. Mmh. Et l'idée était que quand on a une puissance émergente et une puissance établie, il y a un risque de guerre. Et donc, la question qu'on se pose surtout aux États-Unis, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura une guerre demain entre la Chine et les États-Unis? Du point de vue chinois, il y a bien évidemment cette volonté.
Réponse?
C'est une question. Et tout dépendra également des dirigeants politiques. Il n'y a pas de fatalité dans les relations internationales.
C'est un risque. Ce n'est pas une hypothèse qu'on met
c'est
de côté.
C'est un risque, bien évidemment. D'accord. C'est un risque.
Non, mais c'est bien de l'entendre.
Ce qui est sûr, c'est que du point de vue chinois, il y a la volonté d'être la première puissance déjà sur le continent asiatique.
Oui.
Et ensuite, on verra plus tard sur la scène internationale. La Chine met en œuvre, par exemple, à travers ce qu'on appelle en chinois Yilu, les nouvelles routes de la soie, une volonté économique, mais aussi politique, d'influencer ses voisins à travers le levier économique. Puisque la Chine sait aujourd'hui que le seul levier dont elle dispose pour faire concurrence directe aux États-Unis, c'est le levier économique. Ça passe par des investissements, la construction d'infrastructures, le développement des relations commerciales avec ses voisins en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, et puis même jusqu'en Europe. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis, est-ce que cela veut dire que la Chine est une puissance arrogante aujourd'hui, sûre d'elle-même? Je ne pense pas. Je pense que la Chine et les universitaires chinois, les dirigeants chinois, j'en ai rencontré énormément au cours de mes recherches, mettent en avant, à l'inverse, leur complexe d'insécurité. C'est-à-dire que la Chine demeure une puissance fragile, demeure une puissance faible sur certains points. La croissance économique ne va pas se maintenir à 6% pendant 40 ans. Il y a des vrais problèmes démographiques, une crise environnementale, crise potentielle de la dette. Et pour vous donner juste un exemple, un des doyens de l'université de Pékin disait dès 2012, une partie des Chinois se sentent plus en insécurité, ont plus peur et ont un complexe de victimisation qui se renforce, alors même que la Chine est plus puissante. Comment la Chine peut-elle être à la fois plus puissante et se sentir en plus grande insécurité?
Est-ce que États-Unis et Chine peuvent se partager une sorte de bipolarité mondiale, Frédéric Ancel?
Je le crois. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure ce ne sera pas le cas dans les prochaines années, si tant est qu'on puisse attendre du président américain une certaine forme de pondération, à la manière d'un Obama, parce que la Chine a un droit très fondamental à disposer d'une puissance et d'une influence, sans parler même de la puissance au sens hardcore du terme, dans sa propre région de prédilection. Avec un frein supplémentaire que j'ajouterais à la montée en puissance de la Chine, un frein que n'a pas connu les États-Unis dès le début du 19e siècle, c'est l'environnement géographique. Entre le Canada et le Mexique, deux océans, si vous voulez, on a une espèce de bénédiction géopolitique absolue et rarissime dans l'histoire des nations pour les États-Unis. C'est pas le cas pour la Chine. Avec un environnement russe, donc nucléarisé bien évidemment.
C'est voisin, indien, à ce côté,
n'oublions pas bien sûr, l'Inde, avec une rivalité extrêmement dure, notamment sur le Cachemire, mais pas seulement. Et puis le Japon, avec un effort naval très important de la part de l'Inde. Et puis le Japon, qui pour l'instant n'est pas nucléarisé sur le plan nucléaire, qui est un état du seuil, qui pourrait en quelques années devenir une puissance nucléaire et qui reste une puissance économique et technologique absolument redoutable. On a le sentiment, et tout à l'heure vous le disiez très bien, on a le sentiment aujourd'hui que le Japon, c'était dans les années 80, qui n'existe plus parce que la Chine est montée en puissance, ça reste la troisième économie du monde et avec un niveau de technicité extrêmement élevé.
Juste un mot, puisque on disait tout à l'heure, États-Unis, Europe laissent leur place quelque part donc à d'autres, ils sont en retrait. Est-ce que ces autres, justement, qu'on voit arriver, sont pas souvent des régimes autoritaires? Russie, que je le disais, qui a fait son marché en Crimée, sans que ça gêne qui que ce soit, l'Est de l'Ukraine, le Donbass, on pourrait parler de l'Iran aussi, la Turquie. Allez, Antoine Bondaz.
Dans les années 90, on parlait de la fin de l'histoire. Fukuyama nous expliquait, et c'était extrêmement populaire à l'époque, que ce serait le triomphe des démocraties et des économies libérales de marché.
Ouais, ouais, ouais.
Il est revenu sur ses propos en 2011, et aujourd'hui la question se pose. Il n'y a plus de démocratisation des grandes puissances. Et il y a effectivement des puissances émergentes qui ne sont pas occidentales pour la première fois. Et le changement avec l'émergence de la Chine, et si demain la Chine est la première puissance, par exemple économique, puis si elle devient une superpuissance, c'est que c'est la première fois depuis le 15e siècle, en tout cas dans nos conceptions, que ce sera une puissance non occidentale qui sera au sommet de la hiérarchie internationale. Et ça change beaucoup de choses en termes de perception occidentale. Et c'est aussi une des sources de l'inquiétude de l'Europe et des États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis, pendant encore de nombreuses années, resteront la superpuissance. La question se pose par contre pour l'Europe. Pour la France, pour la Grande-Bretagne et pour d'autres pays.
Frédéric,
simplement deux exceptions, l'Empire ottoman, l'Empire turc ottoman, qui lui se percevait d'ailleurs par un faux paradoxe comme occidental en quelque sorte, parce que descendant de Rome, à partir de 1453, on conquiert la Rome orientale. Par conséquent, on a un droit d'aller jusqu'à la Rome occidentale. Donc les Roumiques, comme nous appelaient les Ottomans, ça c'était pas une puissance occidentale, et elle est restée extrêmement redoutable, y compris au moins aux Dardanelles, en 1916. Et puis le Japon, lorsque la Russie échoue face au Japon en 1904-1905, alors ça, c'est une puissance non blanche qui réussit à l'emporter. Et puis, on pourra d'ailleurs plus tard parler des courageux Éthiopiens face à Mussolini. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans la perception occidentale 19e et notamment, bien sûr, 20e siècle, on a affaire à l'émergence de puissances qui ne sont pas nécessairement occidentales, et je pense notamment à l'Inde, mais qui peuvent néanmoins être démocratiques. L'Inde est une grande démocratie. Le Brésil est à la fois, alors occidental, et ce qui se perçoit comme tel d'ailleurs, et démocratique. Ça durera ce que ça durera. Le Brésil est redevenu une démocratie en 86 seulement. Avant,
plus après les militaires, bien sûr.
Après Tancredo Neves et les militaires. Et je dirais qu'il faut, me semble-t-il, dans une analyse géopolitique, déconnecter la nature morale et institutionnelle du régime de sa capacité. Je veux dire par là qu'on peut très bien être une vraie grande puissance autoritaire ou démocratique, ou une vraie puissance très très pauvre ou appauvrie, et être également l'un ou l'autre.
La France, quand même, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, avec cette capacité de projection militaire, en effet, Serval, Barkhane, bombarder Daesh, évidemment, en Syrie et en Irak, l'Afrique, bien sûr, les OPEX, etc. La France est-elle toujours une grande puissance? Mais il n'y a pas que le militaire, on le disait, puisqu'il y a le soft power aussi, un réseau d'ambassades considérable, la culture, la diplomatie... la restauration aussi, quelque part aussi. Hein.
La France demeure évidemment encore une grande puissance. Mmh. Ce n'est pas une superpuissance, mais c'est une grande puissance. Vous vous rappelez le statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a que 5 puissances dans le monde.
Ouais, bien sûr.
Il faut rappeler le statut de puissance nucléaire.
Il faudra peut-être que ça change un jour, peut-être, non ou pas?
Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Beaucoup de membres permanents appellent à une évolution, à une réforme.
Mais ils ne veulent pas laisser leur siège.
Personne ne le veut. Est-ce que la France demain est prête à donner son siège à l'Union européenne?
Ou à l'Allemagne? Non, bien sûr.
La France, bien évidemment, appelle à ce que l'Inde, le Japon, le Brésil rejoignent le Conseil de sécurité. Mais la Chine s'y opposera.
Donc
il y a un peu ce double jeu, non pas de la France, mais de toutes ces puissances qui sont en réalité des puissances conservatrices et qui n'ont aucun intérêt à partager leur puissance aujourd'hui. La France reste évidemment une grande puissance avec de réelles capacités de projection. C'est l'une, comme vous l'avez dit, des rares puissances européennes à pouvoir le faire, mais dans son étranger proche. La France se présente comme une puissance du Pacifique, mais il faut être réaliste. Nous avons des intérêts dans le Pacifique, nous avons une voix qui porte dans le Pacifique, mais nous ne sommes pas aujourd'hui
maritime considérable,
une grande puissance militaire dans le Pacifique. Mmh. Et ça pose d'ailleurs de vraies questions. Si on a un espace maritime, comment le valoriser? Comment le défendre? Si demain, on en parle souvent lorsqu'on est à Séoul, si demain il y a une crise dans la péninsule coréenne, comment évacuer des milliers, voire des dizaines de milliers de Français ou d'Européens?
Frédéric Ancel.
Ça peut paraître anecdotique, mais notre plus petite possession insulaire au monde, l'île de Clipperton, la souveraineté reste française.
On va rappeler Clipperton, donc, qui se trouve dans l'hémisphère sud,
Pacifique Nord, au large du Mexique.
Ah oui, c'est pas très loin, pardon. Voilà. Oui, c'est pas très loin de l'équateur, je pense. Oui, d'accord.
Voilà, c'est ça. Et c'est hors des grandes routes commerciales et ça fait un petit kilomètre carré. Bon. Mais, et du coup, ben, on en partage la défense et l'exploitation avec le Mexique, qui est un pays ami. Pourquoi? Parce que, à part la Jeanne qui allait très régulièrement faire chaque année, bon, il replantait le drapeau français.
Clipperton s'est rempli de crabes et de rats.
Des crabes, des rats du guano, bon, tout à fait passionnant. Oui, mais attendez, mais sauf que vous savez très bien qu'en vertu de Montego Bay, 82, la zone économique
exclusive,
si on trouve, au hasard, du pétrole, ça sera pour nous. Mais vous avez raison, notamment sur la Polynésie française, la France reste en principe une vraie puissance du Pacifique, mais là, objectivement, on n'a pas, pour l'instant en tout cas, les moyens, ou on ne veut pas se donner les moyens, de demeurer effectivement cette puissance-là, pareil autour de Madagascar et des îles Éparses. En revanche, Méditerranée, Moyen-Orient et la majorité du continent africain, la France reste objectivement et authentiquement une grande puissance.
On va se retrouver dans un instant, toujours avec Frédéric Ancel, avec Antoine Bondas. Oui, est-ce que les acteurs étatiques, finalement, ne vont pas devoir faire aussi avec des acteurs non étatiques, hyper puissants, Google, Amazon, Facebook, Apple, oui, sacrée concurrence. On reparle de l'hyperpuissance dans un instant. 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Avec ce hors-série qu'on vous propose, hein, finalement, dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, avec Frédéric Ancel, avec Antoine Bondas, la notion d'hyperpuissance, justement, est-ce qu'il n'y a pas une redistribution des cartes entre grandes puissances? Bon, pour l'instant, l'hyperpuissance américaine n'est pas tellement égratignée, hein, voilà, elle reste là, l'hyperpuissance américaine, c'est ce que nous avait expliqué. Mais l'hyperpuissance américaine, est-ce qu'on ne va pas voir apparaître aussi une cyberpuissance américaine, mais cette fois, une puissance aux mains d'acteurs privés? Tiens, Frédéric Ancel.
Alors ça, c'est une question de fond qui nous a déjà beaucoup interpellés dans les années 80-90, mais à l'époque, on parlait moins de high-tech et on parlait moins de big data et ouais, on parlait évidemment par définition pas d'Internet, mais on parlait des ONG, comme des acteurs, en l'occurrence des actrices, concurrents des États. Et moi, je suis toujours très sceptique. Je pense que l'État, en tout cas dans sa configuration actuelle, l'État au sens régalien du terme, dispose toujours, mais encore une fois, s'il en a la volonté, dispose toujours à condition qu'il en ait les moyens également, et c'est vrai des authentiques puissances, dispose du pouvoir principal. Pas absolu, mais principal. Sur, donc, les ONG, sur le tissu associatif, de façon plus générale, et aujourd'hui, sur l'économie. Bah, écoutez, on l'a bien vu en 2008. Des États parmi les plus capitalistiques au monde, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni.
Parce qu'il y a des banques qui se cassent la figure.
Oui, mais qui sauvent les banques.
Ah oui, aussi qui sauvent les banques.
Eux pouvaient, et n'empêche qu'ils ont sauvé les banques. Donc, si vous voulez, on est bien là sur quelque chose qui maintient l'État au-dessus. Alors maintenant, effectivement, il est difficile, on le rappelle souvent et à juste titre, d'arrêter les flux Internet. On peut les gêner. Ouais. Des dictatures ne se gênent pas pour le faire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
Bien sûr.
On peut, lorsque ces dictatures...
On a vu comment début mai la Turquie a coupé Wikipédia, par exemple.
Absolument. Voilà. Et lorsqu'on a affaire à des petits pays dictatoriaux faibles, eh bien, on coupe rien du tout, sauf qu'on va arrêter les gens chez eux et on les fusille. Bon, si vous voulez, malgré tout, je dirais que dans ce cadre-là, pour l'instant en tout cas, l'État dispose encore de la possibilité principale de gérer les affaires du monde, y compris en termes d'Internet.
Ouais, Antoine Bondas, c'est Bruno Tertrais, donc dirigeant de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui nous le disait récemment à la lecture du rapport, du fameux rapport de la CIA, donc à échéance 2035. Les États auront moins de pouvoir, contrairement aux entreprises, réseaux sociaux, églises, associations. Les États vont devoir faire avec, justement, ces nouvelles puissances que sont Facebook, 2 milliards d'utilisateurs, ou presque, hein, Apple, 250 milliards de liquidités disponibles. C'est énorme.
Alors, les multinationales sont, à l'évidence, un des acteurs sur la scène internationale. C'est une évidence. Certains ont un chiffre d'affaires qui dépasse de très loin le PIB de petits États.
Petits États européens qui ne sont pas des nains, justement.
À partir de là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que c'est sans précédent? Il faut quand même se rappeler qu'historiquement, il y a eu des très grandes entreprises. On peut parler de la East India Company, qui a mené en partie la colonisation britannique dans les Indes.
La compagnie des Indes, voilà, c'est
ça. Qui a poussé l'Empire britannique à faire la guerre à l'Empire chinois durant les guerres de l'opium. On peut penser à l'Empire du pétrole de Rockefeller, qui après a été divisé dans les Sept Sœurs. Donc, on a eu historiquement des cas avec des intérêts économiques très puissant, faisant concurrence directe à des États. On se rappelle en France, au XVIIe siècle, des financiers, les frères Paris par exemple, venant à sauver les finances des États, notamment de l'État français. Donc, c'est pas quelque chose sans précédent. Par contre, il y a plusieurs questions qui se posent.
La
question justement de l'influence à travers les moyens de communication.
C'est sûr, pardon, que la compagnie des Indes en tant que telle, ou une compagnie pétrolière, bon, très bien. Mais Facebook,
bien sûr,
ou Google, c'est au-delà de ça.
L'évolution.
C'est un impact sociétal, un impact dans notre façon de consommer. Je veux dire, c'est un outil d'influence quelque part.
L'évolution, il est justement sur ce pouvoir d'influence des géants, les GAFA, les Google, Apple, Facebook, même Amazon, sur les sociétés. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, est-ce que Facebook demain peut bloquer du contenu sur son réseau social? Et ça, si c'est utilisé à bon ou mauvais escient, ça peut avoir des conséquences politiques fondamentales. Est-ce que demain, Facebook peut permettre, en lançant un Internet par des ballons qui voleraient, par exemple, apporter Internet à des continents comme l'Afrique, mais aussi à des régimes autoritaires. Donc, il y a de vraies questions qui se posent. Aussi, Apple, Facebook sont-elles des multinationales ou sont-elles des entreprises avant tout américaines?
Hey, hey.
Et donc ça, c'est un rapport compliqué entre entreprise et État, entre entreprise et droit international. Il y a eu beaucoup de débats sur le TIPP, le TPP, sur le puissant justement des multinationales de peser sur la justice internationale. Mais en dernier ressort, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Ancel, c'est aux États que la vraie puissance reste entre les mains des vrais États. Et s'ils veulent bloquer une entreprise, ou en tout cas la gêner, ils peuvent le faire. Et après, c'est encore une fois une question de volonté politique.
Contre-pouvoir quand même de toutes ces sociétés, quand Donald Trump, par exemple, avait sorti son décret anti-immigré, anti-musulman, le fameux Muslim Ban, on a vu comment tout s'est aussi enflammé grâce ou à cause de Facebook, etc.
Oui, mais qu'est-ce qui l'a empêché finalement de sévir? C'est la justice américaine.
Oui, bien sûr, oui, avec les juges fédéraux
on
qui ont bloqué.
On est sur du régalien.
Vous avez raison, Frédéric.
D'autre part, les opinions publiques, moi qui ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur le printemps arabe et les opinions publiques de manière plus générale. L'opinion publique, par définition, c'est fondamentalement volatile. D'une part. D'autre part, un État, surtout quand il est autoritaire, lui aussi, bien évidemment, va utiliser ses instruments, alors à la manière d'une pourvoyeur de propagande, n'empêche qu'il va aussi les utiliser. Il va savoir le faire. Trois. On s'aperçoit, a posteriori, qu'en dépit des réseaux sociaux qui ont permis non pas de créer, mais d'alimenter, peut-être de renforcer ces fameux printemps arabes, eh bien, c'est presque partout, sauf en Tunisie, retombé comme un soufflet et que les États, en réalité, soutenus par une grande partie de leurs opinions publiques, en réalité, aujourd'hui, interdisent ces outils et ces instruments qui ont servi à une partie de la jeunesse pour se révolter. Vous voyez ? Donc je dirais que c'est utilisable, oui, mais par tout le monde et dans tous les sens. Et par conséquent, on en revient, en réalité, à un instrument qui est effectivement innovateur, qui est intéressant, qui est puissant, là on parle bien sûr d'Internet au sens large du terme, mais qui n'est pas nécessairement absolument révolutionnaire.
Ouais, première puissance économique mondiale à terme ou pas, tous ces GAFA?
Je ne le pense pas.
Ouais.
Les réseaux sociaux sont un catalyseur, un facilitateur de l'action collective, de la mobilisation. On l'a vu dans les printemps arabes, on le voit dans les manifestations régulières, dans les grandes puissances occidentales. Elles peuvent évidemment se retourner aussi contre les populations ou contre les dirigeants. On voit en Chine, par exemple, la grande application, l'équivalent du WhatsApp chinois, WeChat, est contrôlée indirectement par l'État chinois, de par les questions juridiques et de par la législation chinoise. La Chine peut surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, et éviter des mobilisations, et à l'inverse, faire passer des messages et faire de la propagande, de la communication politique, comme on dirait aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que demain, ces GAFA soient capables de faire une concurrence directe et d'être sur le même plan que les grandes puissances. Par contre, c'est un nouvel acteur incontournable et elles ont un pouvoir d'influence qui est, encore une fois, incontestable.
Passionnant. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Ancel, l'organisateur des rencontres de géopolitique à Trouville. Donc, chaque année, au mois de mai, il est enseignant, professeur de géopolitique à Paris Business School, à Sciences Po Paris. On rappelle, Géopolitique de la Nation France, coécrit avec Yves Lacoste, votre maître. Puis Antoine Bondas, c'était très bien encore une fois. Vivement la prochaine fois que vous reveniez, il chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est fini pour 7 jours dans le monde. On revient très très vite.
BFM Business, 7 jours dans le monde.